D'accord, décortiquons tout ça. Parce que lire un texte antique sans en comprendre le genre littéraire au préalable, c'est un peu comme s'asseoir autour d'une table pour entamer un jeu de société sans savoir à quoi on joue.
Ouais, sans savoir si on a affaire à un plateau d'échecs ou à une partie de Monopoly.
Exactement. On regarde le plateau, on voit des pièces bouger, mais on risque de très mal interpréter les règles. Et si on applique les règles du Monopoly à une partie d'échecs...
La frustration monte super vite.
C'est clair. Les mouvements semblent absurdes, on comprend absolument rien à la dynamique sous nos yeux. Et en fait, c'est exactement ce sentiment d'incompréhension que beaucoup de lecteurs éprouvent face au livre de Job.
Complètement. C'est un texte qui déroute beaucoup de gens.
Donc aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur dans cette énorme pile de notes qu'on a reçues, des documents qui synthétisent les travaux fascinants du docteur John Walton sur cette œuvre biblique monumentale.
Et c'est important de préciser qu'on n'est pas là pour faire un cours de théologie ou réciter des dogmes.
Ouais, pas du tout. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décoder l'architecture du texte, identifier son genre réel et dépasser ce vieux débat stérile qui consiste à demander si ce livre est genre de l'histoire pure ou de la fiction absolue.
Et ce blocage initial autour du genre, il est fondamental. Ce fameux débat entre histoire et fiction, John Walton le décrit comme une fausse dichotomie.
Une fausse dichotomie, c'est-à-dire ?
Ben, on a pris la décrive d'aborder les textes antiques avec nos standards journalistiques modernes. En gros, on exige d'eux qu'ils soient soit des reportages factuels exacts, soit des contes de fées totalement inventés.
Ah ouais, le fameux tout ou rien.
Voilà. Et ces deux seules options nous enferment. Le genre, en fait, ça dicte complètement notre stratégie de lecture. Tu lis pas un roman policier où tu cherches des indices à chaque page de la même manière que tu parcours un éditorial politique.
Ou une biographie historique.
Tout à fait. Quand on identifie correctement le genre d'une œuvre, on la place dans une communauté de textes similaires, ce qui nous donne les outils pour la décrypter.
Le genre agit donc comme une sorte de boussole. Mais c'est précisément là que le bât blesse avec le livre de Job, non ? Parce que traditionnellement, les sources le classent dans la littérature de sagesse.
Ouais, c'est l'étiquette classique. Mais le problème, c'est que c'est une catégorie hyper vaste. C'est un peu en fourre-tout. La littérature de sagesse du Proche-Orient ancien, ça inclut des recueils de proverbes, des choses très pragmatiques, mais aussi des hymnes très complexes ou des dialogues philosophiques. Donc dire que Job, c'est de la sagesse, ça donne une vague direction, mais zéro stratégie de lecture précise.
C'est un peu comme dire « c'est un livre avec des mots ».
C'est presque ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a absolument rien de comparable au livre de Job dans tout le monde antique.
Attends, vraiment rien ?
Rien. De la même envergure. Il y a des fragments égyptiens ou mésopotamiens qui parlent d'innocents qui souffrent, oui, mais en tant qu'œuvre globale, avec sa structure poétique et narrative, Job est unique. Il est totalement isolé littérairement.
Donc, si on n'a pas de famille littéraire pour faire des comparaisons, qualifier ce texte de littérature de sagesse, c'est une étiquette complètement inutile au final.
Elle échoue à capturer l'essence de l'œuvre, oui. On est livré à nous-mêmes sans manuel d'instruction.
Du coup, puisqu'on est perdu avec les catégories classiques, il faut une nouvelle grille de lecture.
Exactement. Et c'est là que l'approche de Walton devient brillante. Il propose de ne plus lire Job comme une chronique historique, mais de l'aborder comme une expérience de pensée.
Une expérience de pensée. Mais attends, l'expression fait davantage penser à la physique quantique ou à la philosophie moderne. Genre le chat de Schrödinger ou la caverne de Platon.
C'est vrai, mais le mécanisme intellectuel est très similaire pour l'Antiquité. Walton fait un super parallèle avec les paraboles.
D'accord.
Pense à la façon dont fonctionnent les paraboles de Jésus. C'est pas des reportages journalistiques sur des agriculteurs ou des bergers. Ce sont des scénarios méticuleusement construits avec des paramètres très spécifiques pour explorer un problème précis.
Et Walton dit que Job, c'est une immense parabole.
Non, il précise bien que Job n'est pas une parabole. Mais l'œuvre appartient à cette même grande famille intellectuelle. C'est un grand scénario de type « et si ».
Je vois. Et l'image qui s'impose en lisant ces notes, c'est vraiment celle d'une soufflerie aérodynamique.
Ah, j'aime beaucoup cette image.
Bah, tu vois, quand on teste un nouveau prototype d'avion, on le fait pas voler un jour de petite brise plantanière. On le place dans un tunnel, on allume les turbines géantes et on le soumet à des vents fort suragants.
À des pressions extrêmes.
Voilà, on veut voir si la philosophie de base ou la structure résiste quand les conditions sont poussées au maximum. L'auteur élimine toutes les variables qui permettraient de tricher avec le résultat.
C'est exactement la stratégie du livre. Tout est exagéré à l'extrême. Si le personnage de Job n'était qu'un homme, disons, plutôt bon avec quelques erreurs passées, n'importe quel lecteur dirait « Ah bah voilà, il paie pour ses mauvais choix ».
La tension s'effondrerait.
Directement. Pareil pour sa souffrance. Si elle était juste modérée, une mauvaise récolte, un rhume, on pourrait rationaliser. On se dirait que la vie est parfois dure.
Mais là, sa droiture est décrite comme absolue, incontestable.
Ouais, et sa tragédie est totale. Elle balaie sa famille, sa richesse, sa santé en un claquement de doigts. En poussant tous ses curseurs à fond, l'auteur retire méthodiquement toutes nos réponses faciles.
Il bloque toutes nos issues de secours. On peut ni accuser la victime, ni minimiser le drame. On est enfermé dans la soufflerie. Mais ça soulève une question inévitable, surtout pour l'esprit moderne.
L'historicité ?
Exactement. Si tout ça est une grande expérience de pensée, avec des curseurs exagérés, que devient la réalité historique ? Beaucoup de gens ont besoin de savoir si Job a vraiment existé en chair et en os.
Alors, c'est là qu'il faut introduire le concept de construction littéraire. Il faut comprendre comment les anciens percevaient la vérité. À l'époque, l'objectif n'était pas de fournir un compte-rendu sténographique.
Ils n'avaient pas de dictaphone.
C'est clair. Et quand on regarde les discours des amis de Job, par exemple, ils utilisent un langage poétique incroyable, très structuré. Personne ne s'exprime comme ça de manière impromptue au milieu d'une décharge publique.
Surtout en deuil, ouais.
Donc, la forme même prouve que c'est une construction littéraire façonnée par un auteur. Mais attention, la plupart des spécialistes, Walton inclus, pensent qu'il y a un ancrage historique réel. Job était très probablement un personnage célèbre de l'Antiquité.
Connu pour sa droiture exceptionnelle et ses malheurs indicibles.
Exactement.
Donc, l'ancrage historique, c'est les fondations de la maison. C'est réel. Mais l'édifice grandiose qu'on a bâti par-dessus, c'est une œuvre littéraire conçue pour cette expérience en soufflerie.
C'est ça. Et d'ailleurs, cette clé de lecture, elle résout un des trucs les plus angoissants du livre.
Lequel ?
La scène d'ouverture, au ciel.
Ah oui, le fameux pari.
Ouais. Le prologue où Dieu et l'accusateur discutent de Job et semblent parier sur lui. Si on lit ça comme un documentaire caché dans les coulisses célestes, c'est terrifiant.
C'est clair. Ça donne l'impression que Dieu joue au dé avec la vie d'un mec juste pour gagner un pari.
Voilà. Mais comprendre que c'est une construction littéraire, ça change tout. La scène céleste, c'est juste un décor narratif. C'est l'auteur qui dresse le plateau de son expérience de pensée pour pouvoir lancer la simulation.
C'est un immense soulagement théologique, en fait. Dieu ne fait pas vraiment de pari sadique. Mais, et là je me fais l'avocat du diable, si on affirme que la scène dans les cieux est une invention, et que même les majestueux discours de Dieu à la fin sont le fruit d'un écrivain, ça veut dire que l'auteur met littéralement des mots dans la bouche de Dieu pour les besoins de son scénario. Est-ce que ça détruit pas complètement l'autorité divine du texte pour un croyant ?
C'est une excellente question, et ça nous force à revoir notre définition de l'autorité. Pour Walton, l'autorité d'un texte sacré ne réside pas dans l'exactitude d'un compte-rendu factuel.
Elle réside où alors ?
Dans l'intention de l'auteur, dans sa stratégie rhétorique. Dieu choisit de communiquer sa sagesse à travers la virtuosité et l'intelligence d'un artiste littéraire.
D'accord.
Donc pour capter cette autorité, il faut observer l'architecture globale que l'auteur a bâtie, plutôt que de traquer des faits isolés.
Et en parlant d'architecture, l'image qui ressort de ses notes, c'est vraiment celle d'un temple antique, avec différentes zones.
Oui, on a cette structure en sandwich, très typique.
On pourrait imaginer un parvis extérieur super accessible, écrit en prose narrative simple, ça. C'est le prologue et l'épilogue.
Tout à fait.
Ensuite, on rentre dans une cour intérieure beaucoup plus dense, entièrement en poésie. Ça, c'est les cycles de dialogue. Et à la fin, on accède au sanctuaire intérieur avec les grands discours divins.
Cette image du temple est parfaite. Et le cœur du conflit, c'est vraiment cette cour intérieure, la section des dialogues entre les chapitres 3 et 27.
Là où Job débat avec ses trois amis, Eliphaz, Bildad et Zophar.
Voilà, et il faut se rappeler que ces gars-là, dans l'histoire, ce sont pas juste des voisins sympas. Ils représentent la crème de l'érudition, les sages les plus respectés de l'époque.
Les experts de la théologie conventionnelle.
Exactement. Ils débarquent pour expliquer à Job pourquoi il souffre. Et ce que l'auteur construit dans ses chapitres, c'est une dynamique d'épuisement total.
C'est marrant parce qu'on peut facilement faire le parallèle avec aujourd'hui. Quand un proche traverse un drame insensé, une maladie foudroyante, on arrive souvent avec nos platitudes rassurantes, nos formules toutes faites.
Ouais, notre petite théologie de comptoir.
C'est ça. Et confronté à la vraie douleur pure, on réalise que nos mots sont de creux. On s'épuise à chercher des explications et on finit par juste se taire.
Et c'est textuellement ce qui se passe dans le livre. Au début, les amis font des discours majestueux, super longs, basés sur la rétribution stricte. Tu fais le bien, t'es béni, tu fais le mal, tu souffres.
Une équation mathématique simple.
Sauf que, vu que l'expérience de pensée a défini Job comme parfaitement innocent, l'équation s'effondre. Et au fil des cycles, leurs discours deviennent de plus en plus courts.
Ils tournent en rond.
Absolument. Au dernier cycle, l'intervention de Bildad est minuscule. Et Tsofar, le troisième ami, il reste complètement muet. Le texte enregistre un silence béant. C'est un échec rhétorique complet.
J'imagine tellement l'ambiance dans la salle. Un peu comme à la fin d'un interminable procès d'assises. Les avocats ont tout donné, ils ont hurlé, argumenté jusqu'à perdre la voix.
Et ils rangent leur dossier.
Dans un silence de mort, et l'audience réalise qu'ils n'ont absolument rien prouvé, la machine est grippée.
Et c'est précisément à cet instant de vide absolu que l'auteur accomplit un tour de force narratif hallucinant.
Au chapitre 28.
Oui, le sublime hymne à la sagesse. Beaucoup de lecteurs passent dessus sans faire attention.
Parce qu'ils pensent que c'est juste Job qui continue de parler, non ?
Exactement, vu que Job parlait juste avant et qu'il reprend la parole juste après. Mais le ton, la perspective, tout marque une rupture radicale.
Ce poème, il explore des images d'une beauté saisissante. Il décrit les mineurs de l'Antiquité qui creusent les montagnes, qui suspendent des cordes dans le noir pour extraire des saphirs de l'or.
Il montre que le génie humain n'a aucune limite pour trouver des richesses enfouies.
Mais la question qui tombe comme un couperet, c'est « Où trouve-t-on la sagesse ?»
Et toute l'attention est là. L'homme sait creuser pour trouver des joyaux, mais il n'a aucune mine pour extraire la sagesse. Elle est hors de portée du monde humain. Et cette vision omnisciente, super sereine, elle ne peut pas venir de Job.
Bah non, Job à ce moment-là, il est terrassé, il est assis sur des cendres en train de hurler à l'injustice.
Voilà. Donc la conclusion de Walton, c'est que cet hymne, c'est le narrateur qu'il prononce, l'architecte de l'œuvre.
Attends, et si je reprends la métaphore théâtrale, c'est le moment où la pièce s'arrête, l'auteur met le film sur pause, il s'avance sur la scène, il brise le quatrième mur et il dit au public « Eh, vous voyez ces gars-là, ça fait 25 chapitres qui débattent et ils se trompent complètement de combat !»
Briser le quatrième mur, c'est la meilleure façon de le décrire. Cet hymne, c'est une critique féroce. Le narrateur intervient pour dire que tout le monde cherchait au mauvais endroit. Et surtout, il fait pivoter l'intégralité du livre.
Il change le sujet du débat.
Exactement. Jusqu'ici, on croyait que c'était un livre sur la justice. Les amis défendaient un dieu distributeur automatique. Job hurlait que la machine était cassée.
Mais le chapitre 28 nous dit que l'univers n'est pas gouverné par la simple justice rétributive, cosmique. Ça explique tellement la nature du dénouement.
Ah oui, quand on entre enfin dans le sanctuaire.
Ouais, quand Dieu prend la parole depuis la tempête à la fin. Il donne aucune réponse directe à Job. Il lui dit pas « Écoute, voilà pourquoi tu as souffert, voici le dossier ».
Ce qui frustre énormément de lecteurs d'ailleurs.
J'imagine. Au lieu de ça, Dieu lui fait faire une espèce de visite vertigineuse du cosmos. Les constellations, la météo, la faune sauvage.
Jusqu'aux créatures chaotiques comme le Béhémoth et le Léviathan, l'argument de Dieu c'est de dire « L'univers est infiniment plus sauvage, complexe et équilibré que votre petite équation humaine.
En gros, l'humain n'a pas accès à la salle de contrôle de l'univers.
Exactement. On n'a pas la vision d'ensemble pour juger ce qui est juste à l'échelle cosmique. Donc face à la souffrance, l'option c'est pas d'exiger le dossier d'instruction, c'est de faire confiance à la sagesse du créateur.
Si chaque pièce de cette architecture, le prologue, l'échec des dialogues, le pivot de l'hymne, la réponse de Dieu, si tout est agencé de façon si maniaque, alors l'autorité du texte réside vraiment dans cette structure intentionnelle.
Complètement. C'est pour ça que Walton met en garde contre la lecture freelance. Il rappelle que la Bible a été écrite pour nous, mais pas à nous.
La lecture freelance, c'est quand on utilise le livre comme une sorte de miroir magique pour nos problèmes perso, non ?
Ouais, c'est très humain. Face à un deuil, on veut un réconfort immédiat. On pioche un verset, triste par-ci, une plainte par-là, on projette nos émotions dessus et on décide « voilà ce que Dieu me dit aujourd'hui ».
Et ça, c'est dangereux.
C'est passer à côté de l'œuvre. Le livre de Job, il distribue pas des pansements théologiques ou des explications faciles. Il propose une restructuration profonde de notre relation au mystère quand le monde s'effondre.
C'est puissant. Pour rassembler un peu tout ce qu'on a vu, on a commencé devant un plateau de jeu mal identifié et on a découvert que c'est pas un rapport de police sur un pari cynique, mais une gigantesque soufflerie narrative. L'auteur a poussé l'innocence et la souffrance à l'extrême pour faire exploser les théologies simplistes.
Il nous force à abandonner l'obsession d'une justice mathématique pour tolérer la complexité.
L'endurance que ça demande est dingue.
Accepter de s'asseoir dans le mystère et de ne pas exiger des réponses binaires, ouais.
Ce qui m'amène à une réflexion finale, que je trouve assez provocatrice. Si ce texte antique est une machine conçue pour nous empêcher de fuir vers des réponses faciles face au drame.
Ouais.
Regardons la réalité de notre monde aujourd'hui. Avec nos smartphones, nos algorithmes, nos fils d'actualité.
Ah, les réseaux sociaux.
Ils sont programmés pour faire l'inverse exact. Dès qu'une tragédie éclate, nos algorithmes nous bombardent instantanément d'explications sursimplifiées.
Des coupables désignés, des clashs, des indignations prêtes à l'emploi.
Des réponses binaires, tout le temps. Alors la question à se poser, c'est est-ce que nos chambres d'écho numériques sont en train de détruire notre capacité à tolérer ce type de sagesse profonde, nuancée et inconfortable que le livre de Job exige ?
C'est une pensée effrayante. Serions-nous devenus accros aux réponses faciles ?
Exactement. Serait-on encore capable, spirituellement, de survivre dans l'antique soufflerie de Job aujourd'hui ? C'est une question qu'on va laisser méditer à ceux qui nous écoutent.
Un beau défi de réflexion.
Merci d'avoir pris le temps de plonger dans cette architecture de la sagesse avec nous. À la prochaine pour un nouveau décryptage.